Michel Potvin est au bout du fil pour la chronique économie. Bonjour Michel, bonne année.
Bonjour. Bonjour Hélène, bonne année à vous également. Ça va bien?
Oui, ça va bien, merci. Alors, je ne sais pas si ça va bien pour Justin Trudeau, je ne sais pas s'il se sent libéré, mais en tout cas, tout le monde en parle. Hier à 11h, Justin Trudeau a remis sa démission comme chef du Parti libéral et premier ministre du Canada. Une démission qui sera effective lors de la nomination d'un nouveau chef. Et avec vous, évidemment, on parle du bilan économique de Justin Trudeau. D'abord, les bons coups.
Ben oui, les bons coups. Il est là depuis 2016. Une cible du premier jour, là, même sa campagne électorale en 2016, c'était la classe moyenne. On voulait aider la classe moyenne. Il y a eu plusieurs politiques en ce sens. Donc déjà en 2016, il a fait une baisse du taux le taux marginal d'imposition. Donc sur les revenus, à l'époque, là ça a été indexé depuis, là, mais à l'époque entre 45 et 90 000 $, ces revenus-là étaient taxés à la hauteur de 20,5%. Ça, c'est juste pour le fédéral, le provincial. Il y a aussi son taux marginal sur ces revenus. Et puis, il était à 22%, puis il a fait baisser à 20,5%, ouais. Donc une baisse de 1,5%. Et puis, il a augmenté, donc il a mis plus de progressivité, ce qu'on appelle dans le système de taxation, pour les revenus supérieurs à 200 000 $. Le taux marginal d'imposition est passé de 29 à 33%.
Progressivité, c'est un mot, ça?
Oui, en économie, est-ce que c'est un néologisme? Je ne sais pas, mais c'est employé couramment en économie. Quand on parle de progressivité, là, c'est un impôt progressif, c'est un impôt qui réduit les inégalités. Donc, l'impôt progressif, ça veut dire plus le revenu augmente, le taux d'imposition progresse. Alors, okay. D'où le progressif. Alors, lui, ce qu'il a fait, c'est que dans le milieu, si vous voulez, des revenus, il a baissé le taux d'imposition, puis il l'a augmenté pour les plus riches en haut de 200 000 $. Donc ça, c'était une première politique qui visait justement favoriser la classe moyenne puis réduire les inégalités de revenus.
Qui a été bien reçue.
Oui. Certainement pour ceux qui avaient des revenus en bas de 200 000. Donc la plupart des gens. En même année 2016, ils ont fait une réforme. Ça, c'est une politique importante. On en a parlé un peu à l'époque, là, mais je pense que c'est une contribution importante. La réforme de l'allocation universelle pour enfants, qui est versée en fonction du revenu. Avant, il y avait plusieurs programmes. Ce programme-là, il a évolué, l'allocation pour les enfants. Puis on a restructuré tous ces programmes. Et puis, je pense que les gens s'entendent pour dire que la pauvreté chez les enfants au Canada a diminué de façon significative à partir de 2016. Elle a augmenté un petit peu avec la COVID, là, mais quand même, ce programme-là, je pense que c'est un des bons coups du gouvernement Trudeau. Puis je pense que derrière cette réforme, là, il y avait Jean-Yves Duclos, là, qui était le ministre à l'époque, j'aurais pas le bon titre, là, mais de la famille, etc., là. Qui était un économiste, un ancien professeur d'économie de l'Université Laval, on peut le mentionner. Et puis, autre politique, la plus récente, en 2021, on voulait mettre en place, un peu à l'instar du Québec, un programme de garderie à 10 $ par jour. Bon, c'était une introduction progressive. Là, on voulait arriver à 10 $ par jour en 2026. En 2024, donc au printemps, il n'y a pas si longtemps, un peu moins d'un an, Radio-Canada avait calculé qu'il y avait seulement 40% des places promises qui avaient été créées. Là-dessus, on dit, ben peut-être c'est difficile de, un, trouver le personnel qualifié pour y travailler, puis le financement, ben ça coûte, ce sont des programmes qui sont extrêmement coûteux, là. D'autres bons coups au niveau des infrastructures, ça depuis 10 ans, on en parle beaucoup, là, notamment dans le transport. On peut penser proche de chez nous, le REM à Montréal, mais il y a aussi eu d'autres projets de transport à Toronto, Calgary et Vancouver. Puis ça, c'est bien, ça veut dire on investit dans l'économie, donc on peut qualifier ça de bon coup. Un autre bon coup, moi je juge c'est un bon coup, je pense que M. Poilievre ne serait pas d'accord. Au niveau de l'environnement, en 2016, on a mis sur pied la taxe carbone avec un prix qui augmente dans le temps. Puis je pense qu'il visait pour 2030 un prix de 270 $ la tonne de carbone. En ce moment, il doit être, j'aurais dû vérifier, là, c'est en haut de 60 $ là, donc probablement un peu plus que 60 $, ce qui est plus élevé que le prix sur le marché du carbone québécois. Avec cette taxe-là, toutes les provinces qui n'avaient pas un marché du carbone, donc le Québec n'était pas visé par cette taxe-là, on taxait le carbone, la tonne de carbone au prix qui évoluait dans le temps. Et les revenus de la taxe, on en a déjà parlé, étaient reversés à tous les contribuables. Donc, les gens qui polluaient peu, par exemple, même les gens qui n'avaient pas d'auto, qui ne consommaient pas d'essence et donc qui payaient très peu, contribuaient très peu aux revenus de la taxe carbone, mais ils recevaient le même chèque que celui qui avait trois SUV dans son entrée de garage, s'il vous plaît. Donc ça, je pense que c'est une bonne taxe. On verra aux prochaines élections. Là, ça se peut qu'elle soit en danger avec la prochaine campagne électorale là, qui va s'annoncer au fédéral. Enfin, fin 23, une des dernières, le régime de soins dentaires qui vise les moins de 18 ans puis les aînés en fonction du revenu. C'est une politique du gouvernement Trudeau, mais probablement que c'est fait tordre le bras un peu par
le NPD.
NPD, parce que bon, le gouvernement Trudeau était minoritaire, puis s'il voulait ne pas perdre l'appui du NPD, il a dû mettre en place ce régime-là. Moi, j'aime en général les régimes où ils sont en fonction du revenu. Là. À l'universalité, ça coûte extrêmement cher. Je pense qu'il faut vraiment cibler ceux qui en ont vraiment le plus besoin. Puis ce programme-là, ben, est en fonction du revenu. Donc, c'est une bonne chose. Puis dernière chose, c'est peut-être contesté. Bon, moi, je vois ça d'un relativement bon œil. Le gouvernement Trudeau a augmenté énormément l'immigration au Canada. En 2000 et 2015, là, je sortais les chiffres, le nombre d'immigrants qui rentraient au Canada par année variait entre 235 000 et 270 000 par année. Sauf en 2002-2003, c'était baissé à 200 000, mais on se souviendra, là, ça c'est probablement suite au 11 septembre 2001, là, donc l'année d'après, l'immigration avait chuté beaucoup. À partir de 2016, donc l'arrivée de M. Trudeau, on varie plus en 270 000, puis les deux dernières années, on était tout près de 500 000. Encore une fois, il y a eu une baisse en 2021 à cause de la COVID, là, mais en oubliant la COVID, là, augmentation significative de l'immigration. Je pense qu'on lui a reproché d'avoir rentré trop de personnes, là, puis les cibles pour 2025 se rapprochaient, étaient sous les 400 000. Moi, je pense qu'au niveau humanitaire, c'est certainement une bonne chose. Le Canada, on est un pays où à plein de places. Et puis, on a quand même des institutions solides. On est capable d'accueillir les gens, là, mais peut-être que ça s'est fait un peu trop vite pour certains. Là. On pourrait en débattre.
Ouais.
Mais moi, je vois ça comme quelque chose de positif, je pense, d'ouvrir nos frontières.
Le ministre le premier ministre québécois, François Legault, voit pas ça de cette façon-là, par exemple?
Non, je pense qu'il ne sera pas d'accord avec moi. Puis je ne suis pas d'accord avec lui.
Avant de passer au mauvais coup, moins bon coup, j'ai fait une petite recherche concernant Jean-Yves Duclos. Là. Il a été ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social là, de 2015 à 2019, ensuite président du Conseil du Trésor, ministre de la Santé et aujourd'hui, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement.
Et puis, c'est un très bon chercheur. Là. Je le connais un peu. Là. À l'Université Laval, il a eu une carrière académique, belle carrière académique. Puis, il va peut-être y retourner après. Je ne sais pas, on verra ce qui arrive avec les prochaines élections.
Est-ce qu'il va se présenter comme chef?
De recherche, faudrait voir.
Son nom ne circule pas, en tout cas.
Non, c'est ça. Mais sa spécialité de recherche, c'était les inégalités et tout. Là. Donc, l'allocation universelle pour enfants, ça tombait pas mal dans ses cordes. Je pense qu'il a fait un bon travail.
Alors, allons-y donc avec le moins bon travail, puisqu'on pense au moins bon coup de Justin Trudeau.
Oui, les moins bons coups. Bon, la plupart des gens sont unanimes pour dire que le déficit... était un peu hors de contrôle. Donc, je pense qu'ils ont manqué de rigueur budgétaire. Le déficit, là, dernier, on avait parlé là, à la dernière mise à jour, est passé à 62 milliards, qui est 2,2% du PIB. Bon, la pandémie n'a pas aidé, là, puis on n'est pas le seul pays en déficit. Là. Il y a d'autres pays ailleurs qui ont fait d'énormes déficits. Là. Puis on mentionne que parmi les pays du G7, seuls le Canada et l'Allemagne ont des déficits budgétaires là, qui sont relativement faibles. Alors, des fois, on entend parler de la France. En France, ça va pas très bien. Les États-Unis ont des énormes déficits, mais en même temps, ils ont la richesse. Là. On a toujours l'impression que même s'ils font des déficits, ils n'ont pas l'air d'en souffrir, ou en tout cas, à date, ils n'ont pas trop t'as pas trop souffert sur une énorme économie, puis il y a quand même pas mal de richesses où on pourrait taxer, si vous voulez, aux États-Unis. Peut-être un chiffre, là, la dette est passée de 31% du PIB, qui était 700 milliards en 2015, à plus de 1 300 milliards aujourd'hui, ce qui équivaut à 42% du PIB. Donc, il y a une autre dette. Mais encore une fois, la COVID n'a pas aidé, mais même avant la COVID, là, on était parti sur une voie là, déficitaire.
Une voie rouge.
Oui, c'est ça. Puis l'économie allait bien, donc je pense que ça, c'était pas... Donc, ça a mal parti. Puis quand COVID est arrivé, bien, ça n'a pu qu'empirer les choses. Non? Donc, mais peut-être juste, si vous voulez vous consoler un peu, en Russie, bon, on a un budget de guerre, mais 6% du PIB est consacré aux dépenses militaires. C'est 40% du budget. Il y a des endroits, c'est pire que nous, là.
Quand donc, on se compare, on se console.
C'est ça, mais je pense, puis là, dernièrement, là, puis je pense, à partir de là, moi, j'appelle ça un peu la frivolité de certaines dépenses, comme le congé de TPS, là, qui était un peu risible, entre guillemets, là, qui avait peu d'impact. Puis,
mais ça passera pas, là.
C'est ça, là. Ça, ben, non, lui, là, il est là, le congé de TPS, il est en vigueur.
Ah oui, OK. Je pensais au chèque de 250 $.
Non. Le chèque de 250, lui, probablement qu'il passera pas, là, parce que le Parlement ne se réunira pas jusqu'à d'ici le mois de mars.
Le 24 mars,
donc ça ne passera pas. Mais disons que ça manquait de rigueur et puis on sentait que ça venait de M. Trudeau, que ça a mené certainement en partie, peut-être en grosse partie, à la démission de Mme Freeland. Puis je dirais peut-être éventuellement à celle de M. Trudeau. Là. Je pense que c'est là que ça a commencé à débouler pas mal. On en parlait avant, là, mais... C'est là que, ça, avec la démission de Mme Freeland, là, ça a vraiment déboulé là, pour M. Trudeau.
Ouais.
Le nombre de fonctionnaires a augmenté de façon significative aussi sous le règne de M. Trudeau. Est-ce que c'est une bonne chose ou un moins bon coup? Il faudrait voir ce qu'ils font. Puis peut-être bon, en blague ou de l'humour noir, aux États-Unis, on a nommé Elon Musk pour regarder un peu les dépenses publiques. Est-ce que le nouveau gouvernement se trouverait son propre Elon Musk à regarder ce qu'on fait, ce que nos fonctionnaires puis nos programmes font? C'est jamais.
On se le souhaite pas.
Pardon?
On se le souhaite pas.
Non, peut-être souhaite pas Elon Musk, mais c'est quand même une bonne chose de des fois regarder ce qu'on fait parce qu'on le fait de façon efficace, parce que les programmes atteignent encore les cibles qui s'étaient fixées au départ, là, d'avoir une certaine rationalisation de ça.
Mais quelqu'un de plus crédible qu'Elon Musk pour occuper ce poste.
On s'entend là-dessus. Et puis bon, dernière petite chose, le niveau de vie des Canadiens mesuré, là, puis bon, il y a toutes sortes de débats pour savoir est-ce que c'est la bonne façon de voir le niveau de vie ou le bonheur des Canadiens, mais le PIB réel par habitant était inférieur en 2023 à celui de 2014. Mais là, il faut faire attention parce que le PIB par habitant, quand on rentre beaucoup d'immigrants, bien, c'est sûr que les immigrants, avant qu'ils fassent leur marque, ils n'ont peut-être pas le niveau de vie qu'avaient les Canadiens avant qu'ils rentrent. Donc, ça peut faire baisser la moyenne. Ça ne veut pas dire que tout le monde au Canada s'est appauvri. Là, on a rentré des gens qui étaient peut-être dont la vie économique était plus ou le niveau économique était un peu plus précaire. Donc, ça fait baisser la moyenne. Donc, il faut prendre ça un peu avec
un grain de sel.
Avec un grain de sel, là, c'est ça. Donc, c'est ça. Bon, je voulais parler peut-être productivité des entreprises. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est quelque chose qui revient. Ça fait 20-30 ans qu'on en parle. C'est un peu un puzzle là, au Canada. Pourquoi nos entreprises sont moins productives que celles, par exemple, aux États-Unis? On dit on n'investit pas assez. C'est vrai, pas assez d'investissement également dans la recherche et le développement. Mais là, pourquoi on n'investit pas assez? Ça, c'est toujours un débat. Est-ce que c'est l'économie américaine est beaucoup plus concurrentielle? Est-ce que ça force les entreprises à investir pour surpasser leurs concurrents? Alors qu'au Canada, il y a peut-être un peu moins de concurrence dans plusieurs industries. Puis là, est-ce que c'est pour ça que les entreprises investissent moins? C'est une hypothèse parmi d'autres là, qu'on avance parfois. Donc, je ne dirais pas que c'est de la faute de M. Trudeau ou ces choses-là. Ça fait un bout de temps qu'on en parle.
Et en terminant, Michel, est-ce que le départ de Justin Trudeau, l'annonce de sa démission, va changer les décisions de taux d'intérêt de la Banque du Canada?
Non, ça, je voulais en parler un peu, peut-être pour rassurer les gens.
La Rassurez-nous. Banque du
Canada. Ah, pardon?
Rassurez-nous.
Oui, c'est ça. La Banque du Canada, comme dans la plupart des pays industrialisés, a une indépendance du politique. Là. Donc, c'est pas M. Trudeau qui décidait de la politique d'intérêt, c'est la Banque du Canada. Son objectif est clair, c'est de maintenir l'inflation dans une fourchette entre 1 et 3 % Donc, peu importe quel est le gouvernement, là, on souhaite que la banque maintienne cette indépendance du niveau politique. Puis je pense pas qu'il y ait lieu de s'énerver avec ça. Donc, les politiques monétaires devraient pas changer, au moins de façon directe. Alors, indirectement, si on a un nouveau chef qui a des politiques inflationnistes, mais là, ça génère de l'inflation. Là, la banque va devoir réagir, mais c'est toujours, elle réagit suite à la santé de l'économie canadienne, à l'inflation, et non pas à qui est premier ministre. C'est pas le premier ministre qui va décider que les taux d'intérêt sont trop ou pas assez élevés. Donc ça ne changera pas de ce côté-là.
Alors, belle chronique, Michel, pour amorcer cette année 2025. On va se retrouver la semaine prochaine.
La semaine prochaine. Mais on a commencé sur des chapeaux de roue, là, avec...
Oui.
La semaine prochaine.
À cause de Justin. Au plaisir.
Ouais. Au revoir.